Un autre type refuse de servir l'Empire. Les premiers chrétiens ne voulaient pas être soldats. Jusqu'à Constantin, c'est-à-dire jusqu'au IVe siècle. Les chrétiens de Rome ou de nulle part ne s'engageaient pas dans les légions. Et ne voulaient pas que les légions les prissent non plus. Après, naturellement, quand l'empereur s'est fait chrétien lui-même, ce qui est le cas de Constantin, et Constantin s'est fait chrétien, pas du tout pour des raisons religieuses, mais pour des raisons politiques, eh bien après, naturellement, il y a eu des soldats dans l'armée de l'empereur chrétien. Mais jusque-là, du temps des persécutions, des soi-disant persécutions, il n'y en avait pas. Il y avait un tas de petites choses qui choquaient les Romains. Ce manque de patriotisme, ce refus d'honorer l'empereur comme un dieu parce que c'était l'incarnation de Rome, etc. Alors, ne croyons pas au fanatisme religieux des religions antiques. Pas de la religion romaine ni de la religion grecque. La Grèce, vous me direz, a donné à la ciguë à boire à Socrate en l'an 400 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Socrate, disait l'acte d'accusation, ne croit pas au dieu auquel Athènes croit, étant athénien. S'il avait seulement été spartiate ou d'un endroit n'importe où, de Mantinée, de Corinthe, d'où vous voudrez, Athènes ne l'aurait pas condamné. Ce n'était pas pour des raisons religieuses, c'était pour des raisons de, comment dirais-je, de devoir patriotique. Un Athénien doit rendre hommage, sinon croire, rendre hommage au dieu d'Athènes. Tout comme un Grec moderne, je parie qu'il y en a les trois quarts qui ne croient pas du tout à la résurrection du Christ, ni à la plupart des dogmes chrétiens, mais vous pouvez être sûr que tous ceux qui étaient capables de se déplacer, ils sont allés à la messe de Pâques hier à l'église orthodoxe de la rue du Colombier à Lyon, tous les Grecs, parce que c'est la coutume, parce que l'église orthodoxe est devenue l'église nationale de la Grèce, qu'elle a préservée d'ailleurs du mahométanisme durant les 400 ans de la longue nuit de la domination turque. C'est ça. Quand j'ai dit, moi, à un prêtre grec orthodoxe, le prêtre qui est mort maintenant, qui s'appelait Gropetis, prêtre de Lyon, on parlait religion un jour et je lui ai dit carrément que je n'y croyais pas. Je lui ai dit, c'est pour moi une affaire de la, c'est la Grèce, n'est-ce pas? Je vais à l'église parce que on y entend de la musique byzantine, on y entend ce psalmodier. Continue. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, je lui ai dit carrément, je lui ai dit, c'est une question de fidélité envers Byzance. Byzance, c'est tout de même 1000 ans d'histoire grecque. L'histoire d'une civilisation qui parlait grec, qui avait la culture grecque et tout ça, malgré son christianisme. Il m'a dit, je comprends ça. Qu'est-ce que vous diriez si j'étais bulgare? Parce qu'il est bulgare en l'église orthodoxe aussi. Si vous étiez bulgare, je ne parlerais pas de religion avec vous. Voilà tout. L'esprit de l'Antiquité, c'était la même chose. Et l'esprit du national-socialisme, c'est la même chose. C'est l'esprit antique, arien. Parce que je dois dire que l'esprit antique n'était pas seulement arien. Dans l'Antiquité, il y avait des peuples de toutes les races. Il n'y avait pas de fanatisme religieux chez aucun peuple de l'Antiquité, sauf les Juifs. C'était les seuls qui avaient un fanatisme religieux. Même si vous étiez de même race qu'eux, et il y avait Dieu sait combien de gens en Palestine qui étaient de même race qu'eux, vous avez par exemple les Ammonites et les Moabites de Palestine. Les Ammonites étaient fils de Ben-Ami. Et qui était ce Ben-Ami? C'était le fils de Lot, fils d'Aram, neveu d'Abraham, avec sa propre fille. Et l'autre Moab, le père des Moabites, était le fils de la deuxième fille de Lot, avec son propre père également, après qu'ils étaient partis de Sodome. Ils étaient donc de race, la même race qu'Abraham. Donc ils étaient intitulés, ils avaient droit à être chéris par leurs frères de race, les Juifs. Pas du tout. Les Juifs les haïssaient, parce qu'ils n'étaient pas les adorateurs de Yahvé, mais les adorateurs, les Ammonites de Milcom et les Moabites de Kemosh, d'autres dieux. Alors ils étaient pour être exterminés. Ils ont exterminé les Ammonites après la prise de Rabba, leur capitale. Les Moabites, c'était un peu plus difficile. Les Moabites les ont vaincus. Alors ils ne pouvaient pas les exterminer. Ils l'auraient bien fait s'ils l'avaient voulu. Ils l'avaient pu. C'est l'esprit de l'Ancien Testament et d'une partie du Nouveau aussi. Je peux vous démontrer que le Nouveau ne vaut pas mieux. Dans les cœurs de tous les chrétiens et de tous les mahométans du monde entier. Les atrocités espagnoles, portugaises, de tout ce que vous voudrez, en Amérique et en Asie, à Goa, où il y avait pratiquement tous les jours, enfin, tous les jours, je ne veux pas dire que ça se faisait tous les jours, on les mettait en prison, puis ça se faisait... au Campo San Lazaro, près de Goa, quand il y avait une fournée, on brûlait vif des gens, parce qu'ils ne voulaient pas accepter le christianisme ou parce qu'ils l'avaient accepté, ils l'avaient rejeté après. La première action de Cortés à Mexico, à Tenochtitlan, plutôt, quand il a pris la ville, ça a été de faire un bûcher de 19 personnes. Ça a été de détruire les dieux. Il a fait exactement comme Paul Yocht. Il a brisé les idoles. Et puis il a brisé les gens aussi. La conquête de l'Amérique a été atroce. Juive, l'esprit juif, intolérance religieuse. Tu n'aimes pas mon Dieu, je te tue. Qui que tu sois, même si tu n'es pas mon compatriote. Les dieux n'ont rien à voir avec les patries de cette terre. Le Dieu unique, le soi-disant unique, Jéhovah, qui n'est pas un Dieu immanent, mais seulement transcendant. Il a fait la terre comme un ouvrier fait une montre ou une pendule ou un appareil photographique. Il l'a fait de l'extérieur. Il n'est pas identique à la nature, comme le Dieu des Aryens. Les Aryens ont toujours eu une conception de la divinité très différente, immanente, liée à la nature et absolument tolérante. Le christianisme n'est pas tolérant parce qu'il vient de l'Ancien Testament. L'islam ne l'est pas davantage parce qu'il vient également de l'Ancien Testament. Il n'est pas centré autour d'Isaac, fils d'Abraham. Il est tenté de centrer autour d'Ismaël, fils d'Abraham. C'est pas mieux. Sauf que sa mère, elle, n'était pas juive, mais elle était égyptienne. Mais enfin, peu importe. C'est une religion fanatique. Vous avez d'autres religions internationales, comme le bouddhisme, par exemple, qui ne sont pas de mon goût, parce qu'elles ne sont pas de cette terre. Elles sont aussi des religions de l'au-delà, des religions qui vous détachent de la terre. Mais elles ne sont pas fanatiques. Un bouddhiste ne vous dirait jamais, si vous n'êtes pas bouddhiste, vous êtes condamnable. Soyez ce que vous voulez. Soyez tout ce que vous voulez. Enfin, voilà une des raisons pour lesquelles Rome a soi-disant persécuté les chrétiens. Le nombre de chrétiens tués par les Romains dans les persécutions jetés au lion, disons, est infiniment petit en comparaison du nombre de non-chrétiens ou d'hérétiques brûlés vifs durant le Moyen-Âge et durant même les siècles après le Moyen Âge. Il y en a 2 millions de femmes brûlées vives en Allemagne seulement. Et Voltaire s'est amusé à faire le compte de toutes les victimes de ce qu'il appelait, n'est-ce pas, la plaie du monde. La religion, selon lui, la religion chrétienne, il en a trouvé pas loin de 10 millions. Enfin, il a peut-être exagéré, mettons qu'il y en ait 1 million de trop, mais c'est quand même beaucoup, comparé à ce que Rome a fait. D'autres livres à lire, je dirais, pour un futur 88, ça serait tous les livres écrits à l'époque. Le livre de Walter, naturellement Mein Kampf. Et puis le livre de Walter d'Arrêt sur la race. Le livre d'Allemand de l'époque. Les livres d'histoire de Blanc. Les livres de Félix Dahn de l'époque. Félix Dahn est mort, je crois, avant la prise de pouvoir. Mais enfin, ces livres sont très bien. Il y en a un qui s'appelle Kampf um Rom. Il y en a un autre sur Julien, l'empereur Julien, que je viens de lire, qui n'est pas si bien, par exemple, que le livre de Merezhkovski, le russe Merezhkovski, sur l'empereur Julien, sur Léonard de Vinci. Il a plusieurs livres, des romans historiques comme ça. Il en a un qui, paraît-il, est très bien. Je ne l'ai pas lu. C'est Pierre et Alexis. C'est la lutte entre la Russie moderne, c'est-à-dire la Russie de Pierre le Grand, moderne au XVIIIe siècle, et la Russie traditionnelle. Enfin, ce qu'il y a aussi, je crois vous pouvez leur donner tous les livres de, je vous ai dit, Walter Darré, Chateaubriand, Robert Brasillac, oui, surtout les 7 couleurs, Robert Brasillac. Et puis, tous les auteurs qui, pendant ces dernières années, n'est-ce pas, ont parlé pour cela. Vous avez aussi Drieu La Rochelle. Et puis qui encore? Vous avez certains livres de Monterland, certains, comme Le solstice d'été et Équinoxe d'automne, sur l'occupation, mais enfin c'est vu d'un point de vue très bien.
Oui, vous m'aviez parlé d'une édition de Mein Kampf qui était meilleure que celle de Sorlot.
Celle de Benoît Méchain. Les livres de Benoît Méchain, voilà ce qu'ils peuvent dire aussi.
Benoît Méchain.
Tous les livres de Benoît Méchain.
Et Benoît Méchain a édité un Mein Kampf.
Benoît Méchain a traduit Mein Kampf. C'est la meilleure traduction.
Il est difficile à trouver celui-là.
Il faudrait écrire à Benoît Méchain lui-même, parce que c'est certainement difficile à trouver. Il y a aussi Murphy, M-U-R-P-H-Y, qui a traduit Mein Kampf en anglais. Mais Benoît Méchain est bien.
Voilà en gros les
en gros, ouvrages. Oui. Les ouvrages. Et maintenant, les classiques. Les classiques, oui. Racine, Corneille. Racine surtout. Non seulement pour le français, mais Racine dit quelquefois des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû dire à son époque, j'en sais rien. Par exemple, dans Athalie, dans sa tragédie d'Athalie, on doit être, quand on est chrétien, et qu'on est dans l'esprit de Bossuet, qu'on croit, ou dans l'esprit de Pascal, qu'on croit que le peuple d'Israël est le peuple choisi, ou du moins choisi pour certaines choses, on doit être contre Athalie et pour les Juifs dans la tragédie d'Athalie. Or, Athalie dit, dans la tragédie de Racine, au grand prêtre des Juifs, Joad, je crois qu'il s'appelle, « Je sais, sur ma conduite, et contre ma puissance, jusqu'où de vos discours vous poussez la licence. Vous vivez cependant, votre temple est debout. C'est-à-dire, moi qui suis une adoratrice de Baal, des dieux de la Syrie, des dieux de Tyr et de Sidon, moi je suis plus tolérante que vous. Si c'était vous qui étiez au pouvoir, les prêtres de Baal seraient massacrés, comme ils l'ont d'ailleurs été, par ordre. Et puis aussi, je recommanderais, en dehors des classiques, des œuvres de Racine, je recommanderais les Parnassiens, le comte de Lille surtout. Le comte de Lille, dans les poèmes antiques, a deux poèmes. Un qui s'appelle Hypatie et l'autre qui s'appelle Hypatie et Cyril. Et vraiment, là vous avez le regret de l'Antiquité, le regret de la tolérance antique. Et la tolérance nationale-socialiste aussi, parce que nous sommes tolérants. Nous sommes tolérants. Nous ne sommes intolérants qu'envers ceux qui sont intolérants envers nous. Autrement, nous sommes très, très tolérants. Hypatie et Cyril, c'est un très beau poème dans lequel le comte de Lille met en action Hypatie, fille de Théon, la pythagoricienne d'Alexandrie du IVe siècle, née en 370, morte, déchirée par les premiers chrétiens, lynchée, devant une église d'Alexandrie, par ordre d'un certain chrétien de cette église, Pierre le lecteur, Petros ou Anagnostis, en grec, et puis par ordre de Cyril, l'évêque d'Alexandrie, qui était l'ennemi de Julien. Eh bien, elle parle. Et elle dit, n'est-ce pas, qu'elle ne peut pas renoncer à ses dieux, à elle, à l'Antiquité grecque. Et elle oppose l'Antiquité grecque et le christianisme fanatique des premiers âges. Je leur recommanderai toutes les œuvres, tout ce qui reste des lettres de l'empereur Julien. Tout ce qui reste des œuvres de Cels, C-E-L-S-E, contemporain de l'empereur Julien. Parce qu'il y a trois Cels. C'est le troisième, celui-là. Tout ce qui reste de l'Antiquité qui prouve, n'est-ce pas, la valeur des religions antiques sur le christianisme et sur l'islam. Et puis, je leur demanderai aussi de lire, naturellement, je dirais le comte de Lille. Oui, le comte de Lille et Heredia. José Maria du Heredia, mais surtout le comte de Lille. Dans les poètes français. Naturellement, les œuvres françaises, comme Paul Racinier, ce que je viens de vous dire avant, n'est-ce pas, et ce que je vous ai dit avant. Et puis, il y a un livre qui vient de paraître, et c'est une société en Allemagne qui s'appelle Thule Seminar, T-H-U-L-E, Thule Seminar, S-E-M-I-N-A-R, qui se tient à Kassel et à Stuttgart. Je ne me rappelle pas exactement les adresses, mais vous pouvez toujours les demander. Et vous pouvez demander le livre qui s'appelle Der unvergängliche Erbe, l'héritage permanent. Je l'ai ici. C'est une série d'articles qui a été publiée par ces gens-là, d'articles de plusieurs personnes. Lisez aussi toute l'œuvre et toutes les revues, n'est-ce pas, dans Alain de Benoist. Alain de Benoist, B-E-N-O-I-S-T, Alain de Benoist, français, qui a écrit en allemand, dans ce livre que je viens de vous dire, un article très bien, justement, sur l'opposition du christianisme primitif et des religions antiques. Et puis, vous avez aussi d'autres auteurs qui sont dans le même livre. Il y en a toute une série. Vous demandez ça à ce Thule Seminar, soit de Kassel, soit de Stuttgart. Vous pouvez avoir l'adresse, vous pouvez avoir des adresses de livres, n'est-ce pas, 88, et vous les avez d'une femme qui est elle-même 88, qui est une Allemande. Je vous donne son nom. Lotte, Charlotte, Lotte, Asmus, A-S-M-U-S. Elle habite l'Italie. Son adresse, c'est I-0-40-19. Terracina, T-E-2-R-A-C-I-N-A. Viale Circe, C-I-R-C-E, 224. Vous lui écrivez de ma part. Vous lui dites que vous voulez ça. Elle peut, vous pouvez lui écrire en français. Elle lit le français. Elle sait encore mieux l'anglais. Et l'allemand, naturellement, c'est sa langue maternelle. Elle est très gentille.
Comment peut-on se procurer vos propres ouvrages?
Soit chez Saint-Loup, soit chez, comment ils appellent ça, à Maudruz. Soit, alors aux Indes, chez Mademoiselle Hirne. Mais Mademoiselle Hirne m'a envoyé un paquet à Vuré. Je ne l'ai jamais reçu. Quoi qu'elle l'ait recommandé. Alors je ne comprends rien.
Il n'est peut-être pas encore arrivé. Elle l'a envoyé par avion.
Par avion. Il devrait être arrivé il y a longtemps, longtemps.
Oh. Il faut qu'elle le fasse.
Il faudrait que ce jeune écrive à Mademoiselle Hirne. Vous leur dites, n'est-ce pas, que vous êtes venu m'entrevuer ici, et puis que je sais que Mademoiselle Hirne, mes livres à moi. Elle ne peut pas les envoyer parce qu'ils risquent d'être perdus.
Oui, d'accord.
Il faudrait que quelqu'un aille aux Indes.
C'est une sacrée trotte, ça. Hein?
Écoutez, oui. C'est pas cher si vous y allez par terre. Je vais vous dire un moyen d'y aller. J'y suis allée en 57 par ce moyen que je vais vous dire. Et j'ai dépensé pour y aller à peu près 500 marques.
En 57.
En 57.
Oui,
mais attendez, vous prenez un bateau grec, une coquille de noix, un bateau grec qui fait le service de Marseille en Grèce. Vous allez en Grèce, vous prenez un quatrième classe, sans nourriture, vous pouvez trouver de la nourriture là sur le bateau. On vous en donne. Vous la payez, vous ne vous en donne pas cher. Vous débarquez au Pirée. Vous prenez un bateau grec qui va quelque part en Syrie, à Beyrouth. Vous débarquez à Beyrouth, vous demandez à Beyrouth s'il y a un bureau du transdésertique, du service transdésertique qui va de Damas. Vous allez de Beyrouth à Damas, et puis de Damas à Bagdad par le désert. À Bagdad, vous prenez un autre autobus, pas cher. J'ai payé une livre sterling pour aller de Damas, de Bagdad à Téhéran.
Il y a combien de kilomètres entre les deux?
Ben écoutez, regardez la carte. Ouais. Regardez la carte. Mmh. Il y a un bon nombre de centaines de kilomètres. Il y a une escale à Kermanshah. Sur la frontière de l'Iran. C'est une bonne trotte. Une livre sterling.
C'est pas cher.
Hein. De Damas à Bagdad, une livre sterling. Vous traversez tout l'Irak. Une livre sterling. Ou une livre et demie, tout au plus. De Téhéran, vous prenez Vous prenez une combinaison d'autobus. Moi, je suis allée par Mached, mais vous pouvez pas y aller ailleurs. Jusqu'à Zaïdan. Zaïdan, sur la frontière du Pakistan. À Zaïdan, vous prenez un train jusqu'à Lahore, dans le Pakistan, et j'en sur l'Inde. Vous entrez en Inde par le Pakistan, par la voie de terre. Tout le voyage m'a coûté en 57 à peu près 500 marks. 1000 francs. Pas cher?
Non, c'est pas cher.
1500 francs. Et vous vous amusez bien dans ce voyage? Vous passez par la Perse, vous vous arrêtez, l'autobus s'arrête, vous voulez manger, on vous donne à manger.
Et toute seule, vous étiez partie comme ça?
Toute seule.
Vous n'aviez pas peur
d'être violée?
des bandits
Non, 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 non. Non, non. Donc, j'aurais voulu voir Ispahan, mais on m'a dit justement que entre Téhéran et Ispahan, il y avait des bandits. Alors, je ne suis pas allée. On m'a dit qu'il y avait des auto-américaines, deux auto-américaines pleines de monde. Six personnes ont été massacrées, les autos volées. Et puis, enfin, c'est des bandits. Alors, allez-y par avion. Je n'avais pas l'argent pour aller par avion.
Ah ouais, bien sûr, à l'époque.
Mais alors, je suis rentrée en Inde. Avec la majorité partie de mon argent, j'avais dépensé très peu. C'était ce que j'avais gagné en Allemagne en enseignant le français dans l'école Bénédicte. Et en Inde, de Lahore, je suis allée à Delhi. Et de Delhi, je voulais aller à Calcutta, en troisième classe, naturellement. Compartiment des femmes. La plupart des femmes, presque toutes les femmes, sont descendus à Mathura, ville sainte. Un homme s'est présenté. Le train partait. Il m'a dit, vous n'allez pas me pousser sur la voie. J'aurais mieux fait de le pousser sur la voie. Il est entré dans le compartiment des femmes, s'est assis. Puis, il est venu à côté de moi. Je dis, pourquoi venez-vous à côté de moi? Vous avez tout le compartiment, vous avez de la place. Il m'a sauté à la gorge, m'a mis par terre. Mis le genou sur la poitrine, m'a serré le cou. Je lui ai dit, vous voulez tuer votre grand-mère? Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Il dit, je veux de l'argent. Vous avez de l'argent.